Je ne sais pas si vous avez réalisé que cette date était une date qui était un bon patronage pour parler de l'abandon, parce que c'est la fête de Saint Abraham, Abraham le père des croyants. Et dans la suite d'Abraham que nous pouvons dire « Mon père, je m'abandonne à toi parce que nous avons foi en ce père qui nous aime ». Donc en avril dernier, avril ou mai, je ne sais plus exactement la date, vous m'aviez déjà invité à vous parler et je vous avais proposé comme sujet l'adoration dans le livre de vie, notre règle de vie. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? Et à la fin de ce petit enseignement, l'une de vous, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle va s'en souvenir, avait posé une question intéressante sur le lâcher-prise. J'avais dû parler de ça et puis une m'avait dit « Mais expliquez-nous un petit peu plus comment on fait pour lâcher-prise ». Comment on s'y prend concrètement? Alors, j'avais répondu très brièvement en parlant du fameux mouvement d'abandon, mais en disant que cela demandait une réponse beaucoup plus développée et qu'il faudrait certainement tout un autre enseignement pour le faire. D'où l'idée qui était venue que je revienne vous parler. Voilà. Et finalement, grâce aux 10 ans, grâce au 10e anniversaire de la Fondation, ça ne fait pas tout à fait un an, mais seulement 6 mois, je crois. Donc c'est très bien. Voilà. Alors voilà donc cet enseignement sur le mouvement d'abandon. Je l'avais déjà donné une fois dans notre fraternité de Strasbourg, là où je vis d'habitude, dans le cadre de la Semaine Sainte. La couleur globale de ce sujet, de cet enseignement, est donc celle du temps liturgique de Carême. Mais le mystère pascal est si grand, si important dans notre vie, puisque nous le célébrons à chaque Eucharistie, que toute saison est également appropriée pour l'évoquer. La grande question que nous pouvons peut-être nous poser est celle-ci. Ce mystère pascal dont nous faisons mémoire en chaque Eucharistie, le célébrons-nous? Oula, c'est plus fort. Le célébrons-nous comme un pieux souvenir, passivement, par tradition, ou bien l'accueillons-nous vraiment dans toute notre vie pour qu'il la transforme, qu'il la transfigure, non seulement à Pâques, non seulement le dimanche, mais chaque jour de notre vie et tout au long de notre pèlerinage sur terre jusqu'à notre Pâques dernière. C'est important pour vous, adorateurs et veilleurs, de vous poser la question parce que vous passez tant de temps avec le mystère pascal dans l'Eucharistie qu'il faut vraiment vous demander « Est-ce que je vis vraiment ce mystère pascal ?» Jésus aurait beau mourir et ressusciter chaque jour, s'il ne trouve aucun cœur pour accueillir le fruit de son offrande, elle ne sert à rien. Lorsqu'il s'écrie avant de mourir « J'ai soif », c'est qu'il attend notre présence reconnaissante, notre foi, notre amour. Il a soif de l'accueil sponsal de son offrande par son Église, son épouse, de génération en génération. Et c'est à notre tour aujourd'hui de le faire pour que son offrande ne soit pas vaine et que le salut soit offert à tous, à travers nous. Le grand modèle de cet accueil sponsal du Christ, c'est bien sûr la Vierge Marie. Et nous sommes au mois d'octobre, au mois du rosaire, donc elle est particulièrement présente ce soir avec nous. Elle va certainement nous aider à entrer dans ce mystère. Il fallait qu'elle soit là, au pied de la croix, pour accueillir en notre nom à tous, au nom de tous ses enfants, le fruit de la rédemption que Jésus nous obtenait en mourant pour nous. Je vous propose de lui consacrer cette soirée que nous allons passer ensemble afin qu'elle nous fasse entrer dans ce grand mystère, qu'elle nous obtienne de l'intégrer vraiment dans toute notre vie, de manière qu'il soit vraiment féconde et pas seulement comme quelque chose qui reste dans la tête. On va dire ensemble, si vous voulez bien, un « Je vous salue Marie » pour lui confier ce moment. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Eucharistie, priez pour nous. Il faut bien toute cette aide maternelle pour nous, car l'enjeu est grand, nous le sentons. Vivre du mystère pascal, c'est le grand secret de la vie spirituelle, le grand défi aussi, celui de qui perd gagne. Notre livre de vie résume cela pour nous, moines et moniales, en une phrase. C'est au chapitre 1, au numéro 1, enfin pas très loin ce soir, du livre de vie. Une toute petite phrase, mais qui a une valeur très importante. C'est à la fin du paragraphe 1 pour ceux qui veulent le retrouver. L'accueil incessant de son amour est ton premier devoir de consacré. L'accueil incessant de son amour est ton premier devoir de consacré. Consacré, on l'est tous par le baptême. On va le prendre seulement pour les moines et les moniales. Les consacrés s'y consacrent, c'est bien le but de leur vie. Mais c'est pour que tous le découvrent et y soient entraînés à leur tour. Or, cela ne va pas de soi. Accueillir dans la confiance que Dieu veut nous donner de meilleur et qui nous arrive souvent, il faut le reconnaître, sous la forme de la croix, devrait être le mouvement le plus naturel de notre vie. Mais à cause du péché originel, notre confiance en Dieu s'est altérée. Notre tendance est de nous replier sur nous-mêmes, de ne compter que sur nos propres forces, de chercher à nous libérer de la dépendance de notre Créateur. Il nous faut donc réapprendre par Jésus, vrai médecin, vrai frère aîné, par son mouvement d'offrande filiale, notre reliance confiante au Père. Certes, nous avons beau être les enfants du Père par le baptême, nous continuons à douter de son amour. Nous craignons de nous soumettre à sa volonté. Nous sentons que nous avons toute une conversion à vivre pour que la grâce baptismale informe tout notre être et que nous n'ayons plus peur de cette croix qui est le lieu de notre salut, plus peur de suivre Jésus dans son mystère pascal. Comment guérir de cette peur? Allons-nous passer toute notre vie dans la crainte de mourir? Ou bien allons-nous enfin en être libérés pour devenir libres de la vraie liberté des enfants de Dieu, sauvés par le Christ? Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est d'un chemin spirituel très simple et sûr, tracé par Jésus, vécu par Marie, découvert par de nombreux saints comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus ou le bienheureux Charles de Foucault, et qui a été théorisé, mis en formule par la famille du Carmel, notamment le père Victor Sillon, un carme, à la suite de Saint Jean de la Croix. Il s'agit donc du mouvement d'abandon. Mais avant d'en parler, je voudrais vous parler de deux personnes qui l'ont vécu. L'une, nous la connaissons très bien, c'est notre fondateur, frère Pierre-Marie. Dans les derniers mois de sa vie, il nous a donné un magnifique exemple d'abandon. Il avait vraiment lâché prise de beaucoup de choses qu'il portait. Il était devenu très simple. Il s'intéressait aux petits animaux, aux coccinelles, voilà. Et il ne pensait même plus à la mort comme quelque chose de dramatique. Il était prêt, il s'abandonnait. Mais aussi dans votre pays, plus proche de vous, je pense à sœur Gilberte Bussière, sœur de la communauté Notre-Dame, qui a vécu, vous le savez, cet enlèvement au Cameroun en avril dernier. Je pense que vous êtes au courant de ce drame qu'elle a vécu et dont elle a été libérée le 31 mai pour la visitation. Sœur Lorraine Cazin en a parlé dimanche, pour les 10 ans en tout cas. Elle vivait tellement du mouvement d'abandon qu'elle avait dit à sœur Lorraine, peu de temps avant de retourner au Cameroun, après être revenue au Québec pour raison de santé en 2013, elle avait dit « Si ma santé le permet, je retournerai avec joie aider nos sœurs camerounaises et leur école de Tchéré. Dieu seul sait l'avenir. » Et je lui dis « Sois en moi celui que tu as le goût d'être. » Fais en moi ce que tu as le goût de faire. Donne-moi seulement la grâce de me laisser faire. Belle parole. Et il ne savait pas ce qu'il attendait, mais le Seigneur l'a prise au mot et l'a exaucée. Je vais donc vous décrire ce mouvement d'abandon. Et puis je vous laisserai voir les conséquences concrètes que cela peut avoir dans vos existences. Peut-être un jour, si vous avez des petits groupes de partage entre vous, je sais que Sœur Aurore a ce projet, elle vous en parlera sûrement, que vous puissiez échanger entre vous pour dire, vous dire les uns aux autres, ben voilà, comment moi je l'ai vécu, comment ça m'a aidé, comment j'ai traversé. Et puis, tout à l'heure, si on nous reste quelques minutes, en fin de soirée, on prendra un temps de prière, un petit temps de prière partagé, pour rendre grâce de ce que le Seigneur nous a fait faire comme chemin d'abandon, ou pour demander la grâce d'y arriver, tout simplement, en frère, en sœur. Vous êtes tout pardonné. Mais c'est enregistré, donc vous pourrez retrouver l'enregistrement sur le site de Fraternité.
Je vous souhaite...
Oui, je vais en France après.
Bonne chance.
Merci. Bonne soirée. Donc, j'ai intitulé ce petit enseignement « Le mouvement d'abandon ou la thérapie à la condition humaine pécheresse ». C'est bien grand mot, mais on parle beaucoup de thérapie aujourd'hui, on cherche partout des thérapies miraculeuses, mais il y en a une qui est toute simple et c'est celle-là. Le mouvement d'abandon est un chemin spirituel, une thérapie de l'âme dirigée contre ce défaut de confiance dans l'amour du Père qui est en nous. Une thérapie qui consiste à guérir le mal en le dévoilant et en faisant appel à Dieu pour y remédier. C'est un chemin de grande humilité, ce fameux secret réservé aux tout-petits dont parle Jésus en exultant de joie. Thérèse de Lisieux, qu'il appelait le chemin d'enfant spirituel, le résume ainsi. Elle dit « Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon. L'abandon, c'est une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. C'est dans ses derniers entretiens. C'est surtout un grand élan vers le haut, vers Dieu, de notre être de créature recourbée vers la terre. Je pense à cet évangile où Jésus guérit une femme courbée dans une synagogue. C'est tout toute la parabole de notre condition pécheresse. On est tout recourbé vers la terre, on regarde le sol, on n'est même plus capable de regarder vers le ciel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous guérit, il nous remet debout et il nous rend capable de regarder vers le Père. C'est ça le mouvement d'abandon. Avant d'aller plus loin, une petite précision de vocabulaire est nécessaire. Souvent, on s'imagine que l'abandon est négatif, qu'il rime avec démission, avec résignation, avec négation. Pour bien comprendre le mouvement d'abandon, il faut retrouver le sens étymologique du mot « abandon ». Il vient du vieux français « bandon » qui signifie « libre disposition, pouvoir ». Mettre « abandon » en trois mots voulait dire « laisser au pouvoir, laisser à la disposition de quelqu'un ». Abandonner comporte donc, dans cet esprit étymologique, un libre renoncement à un droit. Abandonner à Dieu, c'est se remettre librement entre ses mains, c'est se remettre à son bon vouloir, par confiance, par amour filial. Donc, attention à la fausse enfance spirituelle, dire « je reconnais mon incapacité, mais que voulez-vous que j'y fasse ?» ou bien dire « de toute façon, je suis trop petit, trop petite, je n'y arriverai pas. » Ça, c'est de la résignation, c'est du fatalisme. Ce n'est pas de l'abandon. L'abandon, lui, il est fait de volonté et d'espérance. C'est une grande différence. Donc, premier temps, pour bien comprendre l'enjeu du mouvement d'abandon, il faut déjà prendre conscience du drame de notre condition humaine. Ce sera le premier temps. Deuxième temps, nous nous tournerons vers le Christ. Comment son mystère pascal nous apporte la solution et plus encore le salut. Et troisième temps, on va décrire les différentes étapes concrètes de ce mouvement d'abandon pour faire des exercices de travaux pratiques. Alors, le drame de nos conditions humaines, c'est qu'elle vit un continuel défi au désir de paix et d'unité que tous nous portons en nous-mêmes. En chacun de nous, en chacun de vous, il y a une soif immense de paix intérieure, d'équilibre, de plénitude, de shalom, comme disent nos frères juifs. Bref, de ce bonheur du ciel auquel nous aspirons parce que nous sommes faits pour lui, étant enfants de Dieu. Mais nous faisons l'expérience d'une tension constante entre ce que nous vivons et ce à quoi nous aspirons. Au plan moral, par exemple, nous rêvons d'une perfection, mais nous n'arrivons jamais à l'atteindre. Nous disons comme saint Paul, « Malheureux homme que je suis, je sais que nul bien n'habite en moi. » Quant au monde dans lequel nous vivons, il constitue comme une menace permanente à cette soif de paix qui est en chacun de nous. À cause du péché des origines qui se transmet de génération en génération, notre condition humaine est passée de l'accord harmonieux tel que Dieu l'avait créé, au déchirement douloureux. On voit ça au chapitre 3 de la Genèse, après la chute. Et puis Caïn et Abel et tout ça, toute cette discordance qui rentre dans la création. Concrètement, dans le quotidien de nos existences, la paix est menacée de trois manières. Tôt ou tard, nous en faisons l'expérience. Au niveau des relations, au niveau des événements, au niveau de notre vie même, de notre santé, au niveau des relations tout d'abord. C'est l'épreuve que nous pouvons ressentir de la solitude à laquelle nous confrontons notre immense désir de communion avec les autres. Les blessures que nous portons suite à des séparations, des trahisons, des déchirements, des deuils, des échecs de l'amour, font obstacle à la paix du cœur. Au niveau des événements, ça c'est l'épreuve de l'absurde. À travers un événement qui nous arrive et qui déborde notre intelligence, notre raison, on ne comprend pas. Un accident, le comportement d'une personne de notre entourage que l'on ne comprend pas, un problème métaphysique qui nous dépasse, comme le problème du mal. Pourquoi le mal dans le monde ? Alors nous sommes tentés de nous révolter, car nous ne pouvons plus comprendre, c'est-à-dire saisir avec notre esprit. Ça nous dépasse. Et puis, au niveau de notre vie même, comme le pauvre Job dont on parlait dans la liturgie la semaine dernière, spécialement lors de sa dernière épreuve, il avait tout remis, voilà, les membres de sa famille, sa santé, et puis le Seigneur lui dit, allez, encore une dernière épreuve. C'est l'affrontement à notre propre mort et tout ce qui constitue une préexistence de la mort, une préexpérience de la mort, épreuve de santé, physique ou psychique, échec personnel de tous ordres, comme le chômage par exemple, la vieillesse, le déclin de nos forces. Qu'est-ce qui se passe alors? Nous perdons confiance en l'élan vital qui est en nous. Et tout cela, le résultat de l'épreuve, quelle que soit l'origine de l'épreuve, c'est que si nous la vivons seule, à partir de nos propres forces, elle nous fait perdre la paix que nous avions construite en nous et autour de nous. Nous sentons que nous sommes radicalement incapables de dominer l'épreuve seule. Nous nous sentons au contraire dominés par elle et même identifiés à elle. On ne pense plus qu'à ça. Cela se manifeste en général de trois manières qui nous permettent d'identifier clairement que nous sommes dans cette recherche de libération par nous-mêmes et non dans une démarche de salut par la foi. Ça peut se manifester par la rêverie ou par l'activisme ou par toutes sortes d'états négatifs. La rêverie d'abord. nous allons fuir dans l'irréel. Le test de cette fuite, c'est la distraction. On n'est plus vraiment présent à l'instant présent. On fait des choses tout en n'y pensant pas, ou en pensant à ce qui nous préoccupe vraiment. On vit dans des projets à venir ou dans le passé que l'on cherche à reconstruire, mais on n'est plus dans le présent. On n'est plus relié ni à Dieu qui se donne dans le présent, ni aux autres qui sont là concrètement à nos côtés. Autre fuite, c'est l'activisme. C'est l'action aimée pour elle-même. On fabrique des conditions de vie, de réalisation de soi-même, qui soient conformes à nos propres vues, pour ne pas se soumettre à celles des autres. Non seulement on n'est plus relié à eux, mais on cherche à les asservir à nos propres projets. On sort du service de Dieu et on lui préfère notre idée, notre initiative. Ça, c'est le danger de l'activisme, ça nous menace tous. Et puis les états négatifs, ce sont tous ces sentiments, ces idées qui nous font retomber sur nous-mêmes, sur cette courbure là vers le sol, et qui nous détournent de Dieu et toujours du moment présent. Les craintes, le découragement, l'angoisse, le murmure, le soupçon, l'accusation, la sédie, c'est ce que les moines du désert nommaient comme une sorte de découragement global. On n'arrive même plus à nommer la cause, c'est une sorte de déprime générale. À travers ces états, et nous pouvons tous nous y reconnaître à tour de rôle, nous vivons dans notre moi périphérique, à la superficie de notre être, et non plus dans notre cœur profond où vit la divine présence, la présence de la Sainte Trinité. Voilà pour ce premier temps, le drame de notre condition humaine pécheresse. Alors, ayant bien pris conscience de ce drame, nous pouvons maintenant, deuxième étape, nous tourner vers le Christ et comprendre comment lui nous apporte la solution, et plus encore le salut, c'est surtout ça qui est intéressant. Jésus est l'homme parfait, qui a été éprouvé en tout, qui a connu jusqu'à l'extrême la solitude, l'absurde, la mort. C'est donc lui, nous le sentons, qui va pouvoir nous faire sortir de l'impasse de notre condition humaine par sa traversée pascale de l'épreuve. La croix est la seule théologienne, disait un évêque, Mgr Taudéa, qui avait vécu 20 ans dans les prisons communistes en Europe de l'Est. C'est la croix de Jésus, ou plutôt l'amour infini avec lequel il a vécu sa passion pour nous, qui seul peut nous faire passer dans cet autre monde dont parlait la Vierge Marie à Sainte Bernadette quand elle lui disait « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse du bonheur de ce monde, mais de l'autre monde. » Unis au Christ par notre baptême, nous n'avons pas à fuir l'épreuve, ni à la nier en la sublimant, ni à sauter par-dessus elle en nous étourdissant. Non, tout le réel de notre condition de baptisé, y compris l'épreuve, et c'est ça la bonne nouvelle, devient occasion de nous ouvrir à l'expérience pascale, à la rencontre de Jésus en sa croix et en sa résurrection, et devient dès lors le lieu d'un passage à une vraie paix, celle que Jésus nous a promise et nous a laissée. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix, non pas celle que le monde peut donner, mais la mienne, dit-il. La paix au-delà du combat. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et c'est à nous de faire le choix libre d'accueillir cette présence du ressuscité avec nous en tout ce que nous vivons. La clé de l'accueil du mystère pascal en nos vies, c'est bien la réponse que nous donnons à ce choix unique. Est-ce que je vis vraiment avec lui ou sans lui, avec ce Dieu qui me sauve ou bien en me passant de lui? Avec le Christ, cela veut dire dans une dépendance et une confiance filiale qui me fera attendre, recevoir du Christ le sens de mon existence, de mes épreuves, et la paix dans l'épreuve même et par-delà l'épreuve. Sans le Christ, en revanche, cela veut dire, à l'inverse, dans une indépendance, une autonomie, qui va me conduire à des révoltes, au sentiment de l'absurde, voire à des réactions d'autodestruction et de violence. L'enjeu est donc grand, on le voit. C'est de la rencontre avec le Christ dans son expérience pascale que nous découvrons un équilibre humain radicalement nouveau, une plénitude qui va orienter notre vie de plus en plus vers cet essentiel que les saints ont su trouver, comme frère Charles de Jésus, l'imitation de Jésus. Vous connaissez cette parole de Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Nous devenons vraiment participants de la nature divine, comme dit aussi saint Pierre, en vivant unis au Christ. Alors la tension de notre être, entre vie réelle avec ses vicissitudes et l'aspiration à la plénitude, est résorbée, car nous anticipons déjà la vie de la résurrection, non pas dans la fuite du monde, mais à partir de ce monde où Dieu est présent pour y manifester la victoire de son amour. C'est là l'immense beauté de notre vocation chrétienne. Madeleine Delbrel, que vous connaissez peut-être, disait « Ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sanctification et rien ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. » C'est du bon sens, mais ça part d'une foi extrêmement profonde pour dire ça. Troisième étape. Voyons maintenant concrètement comment ce mouvement d'abandon va jouer. Comment ce moyen concret de faire le choix d'être avec le Christ, de lui être présent au cœur de l'épreuve, va intervenir pour nous faire traverser cette épreuve. Nous savons d'expérience combien il nous est difficile de nous remettre entièrement entre les mains de Dieu, d'épouser la croix de Jésus. Nous savons que c'est le chemin de notre libération, mais il faut l'avouer, bien souvent, nous lui tournons le dos. Ou bien, au cœur de notre vie chaotique, nous oublions le béaba de ce mouvement d'envol vers le Seigneur. Le père Victor Sillon, un carme, qui a été 26 ans maître des novices, a su nous présenter ce schéma, ce mouvement, de manière très simple, pédagogique, mnémotechnique, pour nous aider à mieux le vivre. À tel point que sœur Geneviève, la petite sœur de Thérèse de Lisieux, a dit de lui « Vous êtes un vrai disciple de ma petite sœur ». Alors, on va le décrire, ce mouvement, et puis ensuite on va voir sa structure, et on va détailler toutes les étapes. Le mouvement d'abandon, c'est essentiellement une ouverture de l'âme en tout à Dieu. Très simple. C'est une décision de notre moi profond, de ce cœur théologal qui est au centre de nous-mêmes, qui est le siège de notre volonté, de choisir, lorsque nous sommes aux prises avec tout ce qui vient nous solliciter de l'extérieur, pensées, soucis, devoirs, tentations, souffrances, ou même consolation, joie, plaisir, de choisir de ne pas rester à leur niveau, de ne pas rester seul à les traiter, à leur réagir. Il s'agit, face à tout événement, heureux ou malheureux, de s'ouvrir, comme par un coup d'aile spontané, à Dieu. C'est un acte simple, qui n'est pas analysable rationnellement. Sur le plan vital, c'est extrêmement simple, on s'ouvre à Dieu. C'est un envol, dit saint Jean de la Croix. Il utilise même le terme un peu technique d'envol anagogique. Ça vient d'un mot grec, là je fais un peu de science, mais ça vous met au moins dans la fine, comment dire, saveur de saint Jean de la Croix. Ça vient d'un mot grec anagogos, qui veut dire qui fait monter. Anagos, ça veut dire vers le haut. Donc un mouvement anagogique, c'est un mouvement qui nous fait monter vers le haut. Par ce saut en Dieu, l'homme s'ouvre à la grâce et cesse de ce fait de s'identifier au problème qui l'assaille. Je pense à un exemple qui m'est venu après avoir préparé ce petit topo, mais qui peut vous être plus parlant que des grands mots techniques. C'est l'expression expression qu'on a en français, en tout cas en France, je ne sais pas si chez vous vous l'avez, prendre une taupinière pour une montagne. Vous connaissez cette expression ? Vous voyez une taupinière, c'est un petit monticule de terre que font les taupes dans un jardin, par exemple. Ça fait un petit tas de terre. Alors, si on est à plat ventre, comme un petit enfant, là, devant la taupinière, on dit, oh là là, comme c'est grand, c'est une montagne, c'est un Everest. Puis quand on se met debout et qu'on le domine par en haut, on voit que c'est un tout petit tas. Donc, si vous voulez, le mouvement anagogique, c'est prendre de la hauteur. Si on en reste au niveau de l'événement, on est submergé, c'est plus grand que nous, ça nous écrase. Si on s'élève un petit peu, on arrive à le dominer. Voyez la différence. Par ce saut en Dieu, par ce regard vers le ciel, par cette élévation qu'on prend par rapport à la difficulté, on s'ouvre à la grâce et on cesse de ce fait de s'identifier aux problèmes qui nous assaillent. Bien sûr, c'est toujours nous qui pensons, qui décidons, qui agissons, mais c'est Dieu qui inspire nos pensées et nos actes. Avec ceux qui l'aiment, et nous prouvons à Dieu que nous l'aimons en nous tournant vers lui, eh bien, il collabore en tout pour notre bien, comme dit saint Paul. Il nous aide puissamment à tout résoudre. Nous passons alors par ce petit mouvement d'élévation vers lui, de l'homme charnel, de l'homme psychique, à l'homme spirituel. L'homme charnel, c'est celui qui agit à partir de soi, pour chercher à se libérer lui-même. Et l'homme spirituel, c'est celui qui agit à partir de Dieu. Nous sommes là, en faisant cet effort, pleinement enfants de Dieu, mûs par l'Esprit-Saint. Saint Jean de la Croix dit que l'âme qui pratique régulièrement cet acte si simple n'a plus de premier mouvement de nature, sinon vers Dieu et pour faire sa volonté. Thérèse de Lisieux a su le traduire dans toute sa vie de carmélite, l'abandon est devenu comme la respiration de son âme. Voyons maintenant quelle est la structure de ce mouvement d'abandon. Là, je crois qu'il y a un petit schéma que Sœur Aurore va vous distribuer qui va vous permettre de suivre ce que je vais vous dire. On commence déjà à le détailler, puis vous allez découvrir le petit schéma après. Le Père Sillon détaille en trois attitudes qui peuvent être concomitantes ou bien qui peuvent prendre leur temps. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations à vivre selon les circonstances. Il détaille trois attitudes, trois étapes du mouvement d'abandon. C'est au centre du schéma, la colonne centrale. On part du bas, accueillir, et puis au milieu, consentir, et puis plus en haut, offrir. Ça, c'est les trois étapes principales du mouvement d'abandon. Accueillir, consentir, offrir. Mais je crois que c'est important d'ajouter à ces trois étapes principales deux autres. Une qui est tout en bas, je, et puis une qui est tout en haut, bénir. Je, parce que c'est important de prendre conscience de notre liberté de personne, du je qui est le siège de ma volonté, pour ne pas me laisser dominer par mon moi périphérique. Et puis l'étape dernière, bénir, qui rejoint tout le sens de notre vocation de liturge et de chantre de la gloire de Dieu. Mais on va y revenir, on va détailler les étapes principales, ne vous inquiétez pas. Accueillir d'abord. Le Père Sillon dit accueillir ou voir, ça dépend. Il s'agit d'accueillir avec réalisme toute l'étendue de l'épreuve qui m'arrive. De la voir sous son double aspect, objectif et subjectif. Objectif, je regarde l'événement tel qu'il est dans sa réalité concrète, sans en rajouter. Et puis, subjectif, je constate sans détour ni illusion sa répercussion sensible, sa répercussion psychologique en moi, qui aggrave l'épreuve. Par exemple, la tristesse qui accompagne un conflit de relation, ou bien la peur, qui peut me faire décupler une épreuve en intensité. Alors, pour cette première étape, l'accueil, accueillir, il est bon de se faire aider par un autre, par un accompagnateur, par un ami proche, par quelqu'un qui nous connaît bien, un parent. pour faire la part des choses, car souvent, il n'y a dans notre épreuve qu'une mauvaise souffrance, venant de toute cette part subjective qu'on rajoute, ou venant de la vanité blessée ou de la sensualité sevrée, sans vraie épreuve objective. Tout peut alors s'apaiser par la transparence du cœur et en renonçant aux passions qui nous habitent. C'est la première étape. Déjà là, on peut être beaucoup plus en paix si on la partage, cette épreuve, avec quelqu'un qui peut nous dire « c'est pas si grave que ça ce que tu vis, c'est une taupinière, c'est pas une montagne ». Accueillir avec réalisme ma faiblesse dans la lumière de la vérité sera déjà un grand pas de pacification. Si je prends conscience de mon problème sous son double aspect, objectif et subjectif, je réveille mon instinct filial qu'est la grâce. Je me rappelle que j'ai un Père dans le ciel, que je suis en communion avec d'autres, et je suis là sur le roc de la foi. Tout n'est pas gagné, mais je vais déjà mieux. Deuxième étape, consentir. Consentir, c'est vouloir de tout mon être qu'il en soit ainsi. Le problème dans sa complexité et son apparente insolubilité. Pourquoi ? Parce que Dieu le permet. C'est donc le plein accueil de la vie, du réel, comme don et grâce de Dieu pour me sanctifier. Il ne s'agit pas, bien sûr, attention, de consentir au mal ou au péché, mais à la faiblesse qui peut en résulter, afin que la puissance de Dieu puisse la transformer, puisse y manifester sa force. Vous connaissez cette parole de Jésus à Paul, « Ma force se déploie dans ta faiblesse », parce qu'il est capable de tirer du bien à partir de toute faiblesse, de tout sentiment même d'échec chez nous. Cet accueil est le contraire de la résignation. Il faut dire « Seigneur, cela me scandalise, cela me révolte, je suis dans l'angoisse, mais j'adhère à ta volonté qui permet cela, car je suis certain que toi-même ne le veux pas, mais que tu le permets, et que tu ne permets le mal que pour un bien supérieur. Alors, en faisant cela, je participe au fiat du Christ, et je suis libre intérieurement. » Ce deuxième aspect du mouvement d'abandon, cette deuxième étape, est sans doute la plus délicate, la plus difficile à vivre, consentir. C'est un vrai combat, un peu comme celui de l'ange et de Jacob. Il est davantage lié à l'espérance, à la foi confiante, qui s'exprime dans l'épreuve, comme pour la Vierge Marie au calvaire. On s'interdit de douter que ce n'est pas par amour que Dieu permet cela. C'est pour un bien supérieur qu'on ne voit pas, mais qu'on comprendra plus tard. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on ne voit pas le bien. On ne peut que faire confiance qu'il y a un bien derrière l'épreuve. Père Charles de Jésus, dans ses écrits spirituels, fait dire à Dieu, il commente l'évangile de la tempête apaisée. Pourquoi avoir peur, mes enfants ? Souvenez-vous que je suis toujours avec vous. Souvenez-vous que, visible ou invisible, paraissant agir ou paraissant dormir, je suis partout, je suis tout-puissant, je veille toujours, je vous aime. Que vous faut-il de plus ? Souvenez-vous, tout ce qui vous arrive vous advient par ma permission, par la permission et la volonté de mon amour, pour que vous en tiriez un plus grand bien. Ce bien que je vous aide moi-même à en tirer par ma grâce. Belle citation de Frère Charles. Alors, pour atteindre cette grâce, il s'agit de passer dans l'épreuve, sans fuite, avec la douceur du consentement, de consentir à être éprouvé, comme Job, pour tout le temps que Dieu voudra, de porter et supporter avec le Seigneur. Merci. On y trouve alors une force, une paix, comme Marie au pied de la croix, car déjà c'est la grâce de la résurrection qui nous fait tenir debout. Au pied de la croix, Marie a tenu déjà de la grâce de la résurrection. Elle ne la voyait pas encore, mais elle a tenu par cette grâce. Espérer même à plat ventre, disait Madeleine Delbrel. Seulement après, on découvre combien l'épreuve nous a grandi, mûri, fait devenir ce que nous sommes. Je pense que chacun d'entre nous pourrait le dire à sa manière. Le père Sillon ajoute, peu importe que l'épreuve à laquelle nous consentons soit liée à notre péché, ce qui compte, c'est la manière dont nous nous tournons vers le Seigneur au lieu de nous replier sur nous-mêmes. C'est toute la différence entre Pierre et Judas, par exemple. Si nous nous tournons aussitôt vers le Seigneur, eh bien nous venons sans cesse à la naissance éternelle de Dieu, d'où nous ne cessons pas de naître à la vie divine. Voilà pour cette étape du consentir. Troisième étape, offrir. Notre épreuve enfin acceptée dans la paix, il nous faut maintenant nous en détacher. Ça, c'est une autre petite épreuve. Parce que bon, on est tellement attaché à notre épreuve que c'est notre chose et on veut plus s'en détacher. On en parle tout le temps et ça nous obnubile, même si on l'a traversée. Il faut encore nous en détacher et donc l'offrir à Dieu. Et non pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. En renversant la tentation de crispation qui peut encore nous assaillir. Ma souffrance, mon péché, je les donne à Dieu. Vous connaissez sûrement cette histoire de Saint Jérôme, qui avait offert à Dieu ses veilles, ses jeûnes, ses labeurs de traducteur de la Bible. Il croyait avoir tout donné à Dieu, quand un jour, le Seigneur lui dit « Et tes péchés, Jérôme, tu ne me les donnes pas ? Allez, aide-moi en te donnant tout entier, avec tes bonnes œuvres et ton péché. » Ce n'est plus alors un moi idéal que nous offrons, mais notre faiblesse réelle, nos misères. Et nous lui en remettons toute la propriété et la maîtrise pour qu'il règne en elle, sur elle, à travers elle. C'est une offrande qui se greffe sur celle unique du Christ, bien sûr, dans son offrande eucharistique. Elle a valeur de rédemption. Cette troisième étape, elle est proprement chrétienne, elle est sainte, elle est liée à l'Esprit Saint, qui seul peut nous faire dire et vivre comme Thérèse de Lisieux, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Personne ne peut offrir sa misère sans l'expérience de l'amour qui unit le Fils au Père. Et plus nous faisons cette offrande radicale de nous-mêmes, plus nous sommes unis intimement à Dieu. Je crois que les autres étapes, là, accueillir, consentir, à la limite, des non-chrétiens peuvent le vivre très bien, même peut-être mieux que nous. Par contre, l'offrir, et l'offrir à Dieu par le Christ, ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et puis, moi, j'ai rajouté une dernière étape, la bénir. Elle m'est un peu personnelle, mais elle est liée à notre vocation en Jérusalem, de liturge, là, de ce qui loue le Seigneur. Et vous participez à cette vocation avec nous. Pourquoi j'ai choisi ce mot de bénir ? J'ai pensé à la puissance de la louange, pour reprendre le titre du livre du célèbre pasteur évangélique David Wilkerson, vous le connaissez sûrement, Puissance de la louange, un très beau livre. La bénédiction, c'est la vocation du peuple élu. Le peuple élu de la première comme de la nouvelle alliance. Bénir Dieu en tout ce qui nous arrive, même au cœur de l'épreuve. Comme les enfants dans la fournaise au livre de Daniel, ou comme Job en disant « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. » Bien faire cela, c'est permettre la libération de la grâce de salut contenue dans l'événement, même douloureux. C'est permettre la libération de la grâce du salut contenue dans l'événement. Nos frères juifs nous enseignent sur l'importance de cette bénédiction au cœur de l'épreuve. En témoigne cette lettre bouleversante, écrite par la veuve de Rav Jonathan Sandler, la victime de l'attentat de la synagogue de Toulouse en mars 2012. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. En France, ça avait fait un grand émoi. Donc c'était... Un juif qui avait été tué avec ses deux enfants, Il était enseignant, rabbin, tué par une fusillade dans sa synagogue. Et voilà ce qu'elle dit, sa veuve. « Je ne sais pas comment moi et les parents et la sœur de mon mari trouveront la consolation, mais je sais que les voies de Dieu sont bonnes et qu'il nous montrera le chemin et nous donnera la force d'avancer. Je sais que leurs saintes âmes, celles de son mari et de ses deux enfants, resteront avec nous pour toujours et que, très bientôt, le temps viendra où nous serons de nouveau réunis avec la venue du Messie. Je crois de tout mon cœur en les mots du verset « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné le privilège, aussi bref qu'il fut, d'élever mes enfants avec mon mari. Maintenant, le Tout-Puissant a voulu les reprendre près de lui. » Admirable, telle élévation du cœur de cette femme juive. Si nous allons ainsi jusqu'au bout de l'abandon, alors nous trouvons la paix. Apparemment, rien n'a changé. Le deuil est toujours là, le drame est toujours là, mais tout est différent. Nous ne sommes plus identifiés à notre épreuve, bien que nous ayons accepté qu'elle soit nôtre. La raison a pris le dessus de la sensibilité et de l'affectivité, et la volonté a repris toute sa puissance d'action. Dans notre être pacifié, unifié, la grâce peut agir. Certes, c'est toujours nous qui allons penser, décider, agir avec nos facultés humaines, mais sous la motion de l'Esprit-Saint. Par notre attitude filiale de collaboration avec Dieu, nous avons libéré la grâce de rédemption proposée par l'épreuve permise par lui, et nous avons rendu nos facultés humaines capables d'œuvrer avec efficacité au service du salut. Nous réalisons ainsi que nous sommes passés de l'absurde, là vous pouvez reprendre votre petit schéma, nous sommes passés de l'absurde à la compréhension du mystère, issu du cœur du Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie, de la solitude à la communion universelle. Une vie nouvelle, issue du cœur du Christ, du jaillissement de l'Esprit de son côté ouvert, nous est donnée gratuitement. Et cette paix, cette communion est sans limite. Parfois, nous en avons un peu peur. Nous sommes tellement attachés à nos limites que nous connaissons bien, qui nous sécurisent. Nous avons tellement peur du grand large. Mais on ne devient pleinement chrétien et apôtre, homme de paix, d'unité, instrument de paix et d'unité, comme disait saint François, que par l'expérience personnelle de la croix, accueillie, consentie, offerte, bénie. Jésus nous l'avait dit, « Je suis le chemin, nul ne va vers le Père que par moi. » Quand on regarde le mouvement d'abandon dans toute sa trajectoire, on s'aperçoit qu'il résume toute la vie théologale, toute cette suite de Jésus par la foi, l'espérance, la charité. Au départ, il n'y a qu'un acte de foi qui nous élève au-dessus de nos sens et de notre raison pour nous porter dans un dialogue avec le Père. Donc c'est un acte de foi. Au stade du consentement, ça devient un acte d'espérance, comme un tremplin pour rejoindre le roc paternel. Au stade de l'offrande et de la bénédiction, c'est devenu un acte d'amour et même d'adoration dans une communion à l'amour qui unit le Père au Fils et à l'Esprit. Chers adorateurs, Dieu vous attend jusque-là. Car c'est à partir de notre vie, du monde où nous nous débattons, que nous sommes ainsi invités à nous unir à la vie d'amour éternel des trois personnes divines. Je termine par une petite conclusion qui va vous aider à vous souvenir de tout ça. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir des étapes du mouvement d'abandon, parce que quand on est pris dedans, on peut peut-être un peu paniquer et oublier comment on fait. Alors, je vous propose de reprendre le schéma. et puis de lire les lettres. La première lettre de chaque étape, je, donc c'est un J. Accueillir, c'est un A. Consentir, c'est un C. Offrir, c'est un O. Bénir, c'est un B. C'est ce qu'on appelle un acrostiche. C'est formé par les cinq premières lettres. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait ?
Jacob.
Jacob, voilà. Et oui, Jacob. Et c'est intéressant parce que Jacob, c'est le patriarche. Hein, et il a quelque chose à voir avec le mouvement d'abandon. Jacob, c'est celui qui reçoit la bénédiction de Dieu envers et contre toute épreuve. Et l'assurance qu'en tout ce qu'il aura à vivre, Dieu sera avec lui. Et qu'il n'aura donc qu'à s'abandonner à cette assurance. Vois, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je t'ai dit. C'est au chapitre de la Genèse, chapitre 28. On le voit par exemple mettre en œuvre le mouvement d'abandon lorsqu'il doit affronter son frère Ésaü, dont il a usurpé le droit d'aînesse, ou sonné pour un plat de lentilles. Il eut très peur, dit la Genèse, et l'angoisse le saisit. Mais il fait aussitôt appel à Dieu. Dieu de mon père Abraham, de mon père Isaac. Il lui rappelle la promesse. Il invoque sa petitesse, son néant. Je suis trop petit, dit-il, pour toutes les faveurs dont tu as usé envers ton serviteur. Il crie au secours. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, car j'ai peur de lui. Il dit même sa peur subjective. Puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'abandonne et il va se coucher. Et, dit la Genèse, il demeura cette nuit-là dans ce lieu. Parfait exemple d'abandon. La nuit ne fut pas très paisible, on le sait. On connaît la suite, le combat avec l'ange, puis le passage du Yabok. Mais le fruit de son abandon est là. La bénédiction obtenue au prix de ce rude combat nocturne et surtout la réconciliation inespérée avec son frère qui se jette dans ses bras. Et puis, à une autre étape de sa vie, à la fin, on le voit bénir ses 12 fils qui vont devenir pères des 12 tribus d'Israël. C'est au chapitre 49 de la Genèse. C'est comme le fruit de l'abandon de toute une existence. C'est d'être enfin source de bénédiction pour les autres. C'est l'accomplissement d'une paternité, en quelque sorte, de transmettre autour de soi et à ses descendants la bénédiction qu'on a soi-même reçue du Père ou de ses ancêtres. Je vais m'arrêter là. J'avais encore autre chose à vous dire, mais comme le temps presse, il faut laisser du temps pour les questions. Nous avions invoqué la Vierge Marie au début de cette rencontre. Revenons à elle pour terminer cette rencontre sous son regard. Elle a vécu l'abandon à la perfection à la suite de Jésus. Dans sa réponse à l'ange, elle ne précède pas Dieu. Elle est à sa disposition et elle le suit dès qu'il lui fait signe. Elle ne met pas la main sur le bonheur, comme Ève qui a voulu saisir la pomme. Elle attend ce don de Dieu par le moyen qu'il voudra et qui sera pour elle ce glaive qui lui transpercera l'âme. Elle nous montre l'indifférence quant aux moyens et à la manière dont Dieu voudra nous conduire au bonheur. Cette insouciance lui permet de s'offrir en le laissant accomplir totalement son projet sur elle. Le fruit de la croix nous est vraiment offert dans le cœur immaculé de Marie, afin qu'en nous aussi il s'accomplisse. Et comme Jésus a voulu nous donner Marie pour mère en nous quittant corporellement, nous pouvons lui demander de nous engendrer à son propre abandon. Elle nous le rendra facile, comme toute mère qui fait avaler un médicament un peu amer à son enfant en y ajoutant du sucre ou de la confiture. C'est une image de Saint-Louis Grignon-Montfort dans Le Secret de Marie. Alors, c'est un petit clin d'œil, la consécration à Marie comme moyen de vivre facilement le mouvement d'abandon. Voilà peut-être un autre sujet d'enseignement pour une autre année. Si vous voulez encore rebondir, si vous n'en avez pas assez avec moi. Mais ce sera pour une autre fois.